France Culture.
C'est au lycée que j'ai rencontré des élèves que j'appelle des élèves centre-ville, dont les parents étaient notaires ou avocats ou professeurs en université. Moi, j'allais voir des films en VF, ils allaient les voir à la Maison de la Culture de Bourges. Ils avaient lu beaucoup de livres et pas moi. Et je l'ai immédiatement associé au fait de... Au territoire, quoi, parce que je voyais bien qu'on venait pas du même territoire, j'étais déjà périphérique dans la périphérie, et je voyais que leur mouvement, eux, c'était de partir aussi, que c'était prévu de longue date par la famille, que ce serait des études parfois à Paris, ce qui me semblait assez exotique, parce que moi déjà, Tours, ça me paraissait beaucoup. Donc pour moi, j'ai toujours entremêlé ce besoin d'émancipation culturelle, d'études, de diplômes aussi, à la question territoriale.
Tous ceux qui ne connaissent la ruralité que de loin ont tendance à résumer la question territoriale à une simple question sociale. Et oui, en effet, avec 75% des actifs ruraux ouvriers ou employés et avec une création de valeur et d'emplois massivement concentrée dans les grandes métropoles, c'est nécessairement une problématique économique et sociale. Mais pas uniquement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la ruralité ajoute des obstacles aux obstacles, de la complexité à la complexité. Et on peut conjuguer ça à tous les âges, toutes les situations, les jeunes, les femmes, les personnes âgées, celles éloignées de l'emploi, celles porteuses de handicap, celles issues de l'immigration. Quand on cumule des critères de discrimination ou d'inégalité et l'éloignement géographique, on a encore un niveau de complexité qui s'ajoute. Ces contraintes sont largement partagées par les près de 22 millions de femmes et d'hommes qui vivent en ruralité. Et deviennent un véritable malus rural quand elles sont combinées à des difficultés sociales ou économiques. Entendre la France rurale. Une série documentaire de Salomé Berlioux, réalisée par Véronique Samouilov. Épisode 3. La ruralité, exhausteur d'inégalités.
Aujourd'hui, vous avez 7 personnes sur 10 qui vivent dans des territoires ruraux qui disent être dépendantes à la voiture. Et surtout, tout cela les a éloignées de tout un tas de services publics.
Victor Delage, fondateur de l'Institut Terram, un think tank dédié à l'étude des territoires.
L'accès à la santé, on voit que c'est un sujet qui revient toujours lorsqu'on discute avec les habitants des territoires ruraux. Ça fait partie du top 3 de leurs préoccupations. Peu importe la période électorale, l'accès à l'éducation, parce que là encore, on sait que les jeunes qui vivent dans ces territoires ruraux sont beaucoup plus défavorisés par rapport à leurs homologues urbains. Et puis, enfin, bien sûr, la question de l'intégration sur le marché du travail. La mobilité, on voit que c'est quelque chose qui, finalement, structure le mode de vie de ces individus, parce qu'elle conduit à tout un tas de renoncements dans leur existence, des renoncements dans leur vie privée, parce que quand vous êtes dans un territoire peu dense ou très peu dense, accéder à des activités culturelles, à des loisirs, aller voir des proches, faire vos courses, c'est quelque chose qui peut devenir très vite compliqué, à des renoncements tout au long du parcours académique. Et puis enfin, ces renoncements suivent l'expérience de ces individus, l'histoire sociale de ces individus, tout au long de leur vie, puisque c'est aussi le cas dès lors qu'ils commencent à travailler.
Moi, je suis née en Haute-Savoie, donc à Thonon-les-Bains, et on habitait dans un village de 900 habitants, qui a dépassé la barre des 1000 depuis récemment.
Rose Lamy, auteure d'Ascendant Beauf.
Et quand mon père est mort, moi quand j'avais 4 ans, on a déménagé, mes sœurs et moi et ma mère, dans le Berry pour qu'elle se rapproche de sa famille. Je me souviens vraiment des cours de géo où on dessinait une banane jaune qui traversait la France et qu'on appelait la banane du vide ou la diagonale du vide. Donc ça, on l'apprend à l'école. Et puis, on se rend compte qu'on est dedans. Et moi, j'ai voulu m'interroger sur ce que ça fait, inconsciemment ou non, de considérer que le territoire dans lequel on vit est le vide. Donc, je pense que la diagonale du vide, c'est... On ne peut pas se reconnaître ou avoir un sentiment d'appartenance au vide. C'est impossible. C'est ça qui rend une forme de... de solidarité ou de reconnaissance entre soi impossible. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas grand-chose en commun entre quelqu'un qui vient de l'Est ou de la Nièvre ou même du Berry, hein, à part cette assignation au vide.
Ces inégalités, je les ai vécues, enfant, puis adolescente, dans l'Allier. À ce moment-là, je ne mettais pas encore de mots dessus. C'était comme ça, pour moi et pour tous ceux qui m'entouraient, mes copains de classe, leurs grands frères, leurs petites sœurs. Plus tard, j'ai pris conscience que ce n'était pas une spécificité de Lurcy-Lévis, mon village. J'ai compris que les jeunes ruraux étaient nombreux, sur tout le territoire français, à vivre la même chose que moi, et que leur parcours ressemblait beaucoup au mien ou à celui de Rose Lamy, sans que jamais on en parle nulle part. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à développer un intérêt frôlant l'obstination à l'égard de la ruralité. J'ai voulu tout lire, tout comprendre des miens et de nos territoires. J'ai commencé à explorer ce soi-disant vide dans lequel j'avais grandi.
Annette Gien, je suis retraitée de l'éducation nationale depuis le 1er septembre 2024 et j'y ai consacré 46 ans de ma vie. Et c'est passé très vite. Et je suis devenue, entre guillemets, une spécialiste de l'école rurale, puisque pendant plusieurs années, les différents recteurs ou rectrices qui se sont succédés m'ont donné cette mission. Et c'est dans ce cadre-là donc, que j'ai pu véritablement analyser donc, les élèves qui vivent en ruralité. Alors, d'emblée, l'école rurale se caractérise par une bonne performance scolaire de ses élèves, au moins jusqu'à la fin du collège. Alors, ce sont en général des jeunes qui font toute leur scolarité ensemble, hein, parfois dans la même cohorte, hein, c'est-à-dire qu'on est une petite vingtaine d'élèves en maternelle et on se retrouve la même vingtaine à la fin du collège. Chacun se connaît, c'est une sorte de grande famille, on y est bien. Et ces jeunes s'installent dans ce qu'on pourrait appeler une bulle éducative. Bulle éducative qui va éclater à la sortie du collège et ces élèves vont être fragilisés. Que choisir ? Alors, le lycée général et technologique à 60 km de son domicile, ce qui implique l'internat. Le lycée professionnel plus proche et surtout plus sûr, avec des débouchés plus rapides sur la vie professionnelle, dont on connaît peut-être certains métiers dans son entourage. Ça, je crois que c'est vraiment la problématique spécifique à la ruralité. Hein. Cette bonne performance scolaire, mais en même temps, ce qu'on peut appeler un manque d'ambition scolaire, en tout cas une orientation qui est plus faible qu'en milieu urbain ou périurbain. Et c'est vrai que, autre problématique de ces jeunes ruraux, on le voit, il y a un éloignement de l'offre de formation, les opportunités de poursuite d'études, d'emploi, qui rendent plus difficile l'accès à l'information sur l'orientation. Et cela tend à décourager les ambitions scolaires et professionnelles de ces élèves ruraux.
Quand vous vous imaginez faire des études ou travailler, d'ailleurs, quand vous étiez enfant puis ado, qu'est-ce que vous imaginiez pour votre avenir ?
J'avoue ne pas m'être imaginé grand-chose jusqu'à la terminale.
Guylain Gilliot a grandi à Marmagne, commune de 1276 habitants en Saône-et-Loire. Il est président fondateur de l'association Ce qui nous lie.
J'ai eu la chance d'être plutôt très bon élève, mais pour le coup, le sujet de l'orientation et de l'avenir n'a jamais été abordé. Non pas parce qu'il y avait une forme de tabou, mais juste, en fait, c'était pas le sujet. C'était très bien que j'ai des bonnes notes, voilà. Et en fait, la question s'est posée à l'issue de la terminale. On nous a expliqué un peu du jour au lendemain qu'il fallait qu'on choisisse notre avenir, mais sans forcément l'anticiper. Et donc, à la fois, s'est posé donc, du coup, cette question-là, de savoir qu'est-ce que je veux faire. Et à la fois, il y a eu cette question, pour moi, en tout cas à titre personnel, de me dire que je n'avais pas envie de rester dans mon territoire, mais aussi parce que je savais que j'étais homosexuel. Et donc, du coup, j'ai vécu des choses qui n'étaient pas simples à un moment donné. Et donc, je savais que si je voulais faire des études supérieures, bah en fait, ceux qui veulent faire des études supérieures au Creusot, généralement, ils vont à Dijon. Et donc, si c'était pour retrouver les mêmes personnes, en fait, je voulais couper court à ça. Et donc, je voulais obligatoirement aller à Lyon.
Je rappelle que pour les collégiens, en moyenne, ils font 11 km par jour pour se rendre sur leur lieu d'études. Et pour les lycéens, c'est le double, c'est 22 km. Et puis par ailleurs, 70% des formations post-bac sont concentrées dans les métropoles. Donc effectivement, cette assignation à résidence, elle a des répercussions très fortes sur tout ce qui est lié à la mobilité sociale. Ça, c'est un enjeu clé.
Donc, j'ai fait mes vœux à Lyon. On était avec notre professeur principal dans une salle de classe, la salle informatique avec les ordinateurs un peu vieux. Et on nous a un peu laissé à l'abandon en disant « Bon bah voilà, vous avez votre plateforme, il faut que vous choisissiez vos vœux. » Sans préparation, sans le fait de se dire « Discutez-en avec vos parents avant. » Je faisais du théâtre, en tout cas dans l'option théâtre du lycée. Je me souviens même pas si en fait je considérais que c'était quelque chose qu'on pouvait valoriser. C'était vraiment ce truc de se dire, bah en fait, choisissez maintenant, remplissez, et puis en fait, je me suis dit, mais de toute façon, au regard de mes notes, je serais forcément pris.
On sait que les parents et les proches représentent la première source d'information mobilisée par les jeunes pour l'orientation. C'est vrai, ces jeunes ont accès à des informations sur l'orientation, alors soit données par leurs professeurs, soit données dans le cadre des centres d'information et d'orientation, sans doute. Sauf que ces informations, il n'y a personne pour les incarner. Il n'y a personne dans leur entourage pour échanger avec eux. Donc, même dynamique dans une famille dont les parents ne croisent pas beaucoup d'autres parents dont les enfants doivent s'orienter au même moment. Même dynamique avec les copains du village. Hein. Ils ont partagé, si j'ose dire, depuis la maternelle, mais quelque part, une forme de sociabilité en vase clos. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont toujours restés dans leur résidence. On en arrive à un autre terme très fort, hein, l'autocensure. Hein. Et je reprends la bulle éducative parce que je pense qu'elle illustre aussi la bulle de la famille, la bulle du village, etc. C'est confortable malgré tout. Et puis finalement, eh bien, on va reproduire pour certains ce que leurs proches ont fait sans avoir l'opportunité de rencontrer des visions différentes.
Tes trois principales qualités.
Je sais pas.
Les qualités. C'est ce que j'ai de moi.
Bah, qu'est-ce qui te rend heureux alors ?
Qu'est-ce qui me rend heureux ?
Être utile à la société et lutter pour un monde meilleur.
Donner du sens à ma vie.
Et prouver que je suis capable de faire quelque chose.
Je revois les visages de tous ces adolescents que nous avons rencontrés dans les salles de classe où nous nous rendons depuis 8 ans avec mon association. Adi, dans la Drôme, à Mirecourt, dans les Vosges, à Beaupro, dans le Maine-et-Loire, dans de petits collèges modernes coincés au creux d'une montagne, dans des établissements aux allures de longères, comme perdus au milieu d'une plaine, dans des lycées anciens, au cœur d'une petite ville ou à la périphérie d'une autre. Les paysages diffèrent. Les inégalités sont les mêmes. Antoine Chevrolier a grandi dans l'un de ces bourgs ruraux, Longué-Jumel, dans le nord de l'Anjou. Il est aujourd'hui réalisateur.
Un mercredi soir, je sortais de l'entraînement de basket et on était chez mes cousins et mes cousines. Et 23h, je ne sais pas ce que je foutais à cette heure-là parce que le lendemain j'avais école. Mais bon bref, j'étais devant la télé tout seul et je tombe sur Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock. J'ai genre 8-9 ans, il passait ça tous les mercredis soirs à 23h. Et là, je reste. Je suis vraiment plus que captivé. Je suis tétanisé en fait par la puissance du film. Et le lendemain, maman, elle m'a dit que je lui avais dit que je voulais faire ce que j'avais vu la veille. Mais je savais pas ce que ça signifiait. Et j'ai une passion pour le cinéma qui naît. Donc il y a à l'époque il y avait des VHS quoi. Donc il y avait un vidéoclub. Et je sais que les locations c'était cher quoi. Je me rappelle c'était 20-25 francs à l'époque. Bref, je me rappelle de m'être fait en fait toute une partie de Kubrick et puis dans un second temps, je me rappelle même il y avait eu un ciné-lumette dedans. C'était improbable alors que c'était quand même plutôt du cinéma populaire. Bon bref. Et puis vient le collège et puis le lycée. Et donc là je me rends compte que mon désir de raconter des histoires et de les mettre, de les figurer avec des images, se retrouve confronté face au monde des adultes qui est censé m'aider et me diriger vers cette voie-là et qui sont dans une incapacité totale. Je les blâme pas. Ils n'avaient pas les clés. C'est-à-dire que je leur disais, je voudrais faire du cinéma. Et ils me disaient, fais de la communication. Sans parler de, j'étais pas très bon élève. Donc en cinquième, on m'a dit, c'est à pêche-chaudronnerie. Puis en troisième, on m'a dit électricien. Bon, il s'avère que j'ai réussi à passer un peu les étapes en redoublant, mais en passant quand même. Et à un moment donné, on est en première ou en terminale, il faut choisir. Et donc, voilà. Et je leur dis, je fais du cinéma. Je sens dans leur regard d'une, une impossibilité. Un espèce de truc de, ah, il est mignon le petit, c'est impossible. Et je sens dans un deuxième temps que les profs, les conseillers d'orientation, ils n'ont absolument aucune clé pour tracer un début de voie, un début de sillon, quoi. Donc, en fait, je me sens, je sens que c'est inaccessible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas pour nous, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi, mec, tu viens de Longuet Jumelles. Encore une fois, je ne les blâme pas parce que je pense que ils avaient pas les outils, tout simplement, quoi.
Toi, ça parlait de quoi, ton livre? Secret? Tu veux pas en dire? Un écrivain, c'est pas un métier. Mais bon, si t'y arrives, on le prouve le contraire.
Et comment tu fais pour trouver un éditeur?
Il faut envoyer le manuscrit.
Je crois que l'enjeu majeur, il est bien là. Leur donner les moyens d'être ambitieux, mais je ne sais pas si ce terme me convient particulièrement. Ambitieux, il y a toujours une petite notion péjorative, et on est un peu avec Rastignac, hein, qui monte à Paris, hein, voilà. Moi, je préférerais parler d'audace, les rendre plus audacieux, hein, ces jeunes ruraux, en les accompagnant justement vers cet inconnu. Voilà. Et on voit bien que les compétences scolaires ne suffisent pas, finalement.
Tu verras bien. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
Après, l'un n'empêche pas l'autre.
Bah oui.
Tu peux avoir un métier à côté et puis faire écrivain.
Oui, être écrivain, hein. Faire les deux. Hein.
Donc, je prends un an et je fais de la manutention, je travaille dans les vignes, enfin voilà, je me fais un peu d'argent et je monte sur Paris. Très naïvement, en me disant, je n'avais pas de plan en fait. Je me retrouve sur un tournage à Paris, enfin, je vois un tournage quoi. Et là, d'un seul coup, je vois des caméras, des perches. C'est fou, quoi. On se rend pas compte. Hein. Non, mais en fait, on se rend pas compte parce qu'aujourd'hui, moi, je vis à Paris. Et donc, les tournages, c'est assez quotidien pour les Parisiens. Enfin, quotidien, j'exagère, mais en tout cas, c'est commun. Mais quand on vient à Paris, en fait, c'est... Voir un tournage, avoir la chance de voir la Tour Eiffel tous les jours, ça a l'air de rien, quoi. Mais moi, ça m'émeut à chaque fois que je passe devant la Tour Eiffel. C'était quelque chose, tu vois. La Tour Eiffel, moi je l'ai vue, j'avais 16 ans la première fois. C'était dans les films. Et en fait, d'être face à ces possibilités, je vois ce tournage, bon an, mal an, j'essaie de m'introduire, je lève la main et tout, et qu'est-ce que tu sais faire, tout ce que tu veux, tout ça, elle me dit, ok, on est en galère sur un truc qui s'appelle la régie, donc la régie, c'est tout ce qui s'occupe de l'organisation. Et mon premier taf, ça a été de ramener des cafés à Richard Berry. Bon bref, ça a duré une journée. Je suis reparti, puis je me suis retrouvé catapulté premier assistant sur un film où il n'y avait pas d'argent, mais où il y avait un peu de casting. Mais c'est pareil, j'ai bluffé. J'ai plus de premier assistant, je l'ai viré ce matin, est-ce que tu peux être premier assistant? Je n'avais aucune idée de ce que ça signifiait, je l'ai regardé droit dans les yeux, je dis oui. Il m'a dit ok, on se voit demain, on parle plan de travail. Pour moi c'était du mandarin, je ne savais pas de quoi on parlait quoi. Je suis sorti, il y avait une bibliothèque de cinéma qui était à Châtelet et il y avait un livre qui s'appelait Le premier assistant réalisateur. J'ai acheté le livre avec le scénario et toute la nuit j'ai lu et j'ai appris ce qu'était le premier assistant réalisateur avec le livre.
Je suis arrivé à la fin de mon bac en ayant mon bac mention très bien et donc c'est bon, enfin j'ai pas à me soucier de mon avenir. Mais en fait je me suis retrouvé refusé de partout.
J'avais rencontré quelqu'un dans un concert, on a fait une espèce de film comme ça, sans son, sans rien, je n'avais aucune notion de rien. J'ai été louer une caméra, je tourne le truc, et puis derrière, j'ai les rushs. Et là, je me dis comment il faut faire. Donc je me renseigne, on me dit, faut que tu montes, quoi. Pas de contact, rien du tout. Je dis, comment on fait pour monter? Il faut un ordinateur, quoi. Waouh, un ordinateur. Faut acheter un ordinateur, je me renseigne, il me dit, le mieux c'est Mac, t'as iMovie, des trucs comme ça. Je regarde les prix, c'était 1300, 1400 euros, quoi. Et là, je demande un emprunt à la banque de Longuet Jumelles. Et je rembourse un emprunt 45 euros par mois. Et je monte mon premier court-métrage, quoi. Je l'envoie très naïvement dans des festivals et le film est pris. On va pas perdre notre temps moi ici. Parti de rien, on va trouver la sortie. C'est pour tous ceux qui ont pour nous du mépris.
La seule voie pour moi, c'était celle de rentrer dans le privé. Il y avait une classe prépa qui à l'Institut des Chartreux. Donc j'en ai parlé à ma mère et la première chose qu'elle m'a dit c'est mais Guylain, on ne peut pas. Donc il s'est passé quelques jours un peu de flottement. Ma mère a fini par me dire quelques jours après écoute, j'y ai réfléchi, on va le faire. Mais ça va nécessiter qu'on s'accroche un peu sur le plan financier parce que l'année, c'était aux alentours de 6000 euros, juste l'école. Et ce qui nécessitait aussi de penser à au coût en fait, de la vie à Lyon pour une mère célibataire, de se dire, bah, en fait, mon enfant veut aller à Lyon, donc il faut déjà anticiper ce que va coûter le prix d'un appartement, plus le prix de cette école. Donc tant pis, on fera un prêt étudiant, on va faire comme beaucoup. Mais je veux dire, une fois que le choix était fait, il y avait aussi le fait de se dire, il faut que tu sois pris. Parce que en fait, au début, c'est pareil, j'étais sur liste d'attente. Je me suis dit, mais en fait, ça ne va jamais s'arrêter. Et en plus, je m'embarquais dans une filière qui était la science politique, avec aussi cette charge de me dire, tu vas rentrer dans quelque chose où en fait, tu ne vas pas avoir le droit à l'erreur, puisque tu sais ce que ça implique derrière pour ta mère.
Moi, je crois que le défi dépasse l'école stricto sensu. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai constaté quand j'étais inspectrice, c'est que les jeunes ruraux ont les compétences scolaires, mais ce qui leur manque, je pense, ce sont les compétences transversales. Par exemple, comment fréquenter un lieu culturel, comment fréquenter un musée quand vous n'en avez pas in situ. Voilà, je crois que c'est un petit peu ce qui caractérise cette ruralité.
Après, je me suis rendu compte que, de par leur code que je n'avais pas, ils pouvaient aussi me mettre à distance. Quand d'un seul coup, ça parle de Rothko ou de Glenn Gould, en fait, bon, moi, j'avais plus les clés à ce moment-là, quoi. Et donc, à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'éteint. Et puis, il y a quelque chose qui se rallume à l'intérieur. C'est évidemment la honte et le complexe, quoi. Parce que, en fait, on peut pas rattraper 15, 20 ans d'un enfant ou d'une jeune fille qui est alimentée par un flot de culture, quel qu'il soit, musical, cinématographique, littéraire ou autre. Donc il a fallu s'éduquer. Mais j'ai jamais rattrapé mon retard.
Je m'appelle Marie, j'ai 14 ans, j'habite au bord de la forêt de Troncé. Mon papa est ouvrier en pépinière et ma maman est aide-soignante dans une maison de retraite avec les personnes atteintes d'Alzheimer. Plus tard, je veux me lancer dans le droit, en partie grâce aux séries et aux films que j'ai pu regarder, parce que du coup, je connais personne qui pratique ça au quotidien. C'est vraiment très paysan ici, du coup, ils n'ont jamais connu ça, à vrai dire. Et je pense qu'ils seraient fiers de moi si je pouvais aller là-dedans.
Annette, est-ce que vous pourriez donner un exemple de parcours d'un jeune rural qui a été limité par son ancrage géographique ?
C'est ce jeune que j'ai connu donc à la sortie du bac et qui voulait être médecin. Oui, mais alors médecin, avec la réputation de la première année de médecine, où il y a un taux d'échec très important, etc. Avec effectivement aussi l'aspect financier hein, pour ses parents. Eh bien, ce jeune, finalement, a fait un choix raisonnable. Et c'est terrible d'être raisonnable à cet âge-là, à 18 ans. Et donc, il est devenu infirmier. Parce que, bien sûr, l'école d'infirmiers et d'infirmières était sur place. Voilà.
Je pensais que le fait d'avoir fait des études à Lyon allait gommer le fait que je venais d'un territoire rural. Et en fait, même pas, puisque en fait, à chaque fois, on me ramène au fait que de toute façon, je ne suis ni parisien, ni francilien, et qu'en fait, je n'ai pas ma place dans ce type d'école. Et cette forme d'injustice, mais ça a été terrible pour moi. Et en fait, je l'ai vécu de la même manière quand j'ai postulé à la Sorbonne, quand j'ai postulé à Assas, dans toutes ces grandes écoles prestigieuses. J'ai été refusé partout. Je suis dans les 10 premiers de ma promo. J'ai fait en sorte d'avoir des lettres de recommandation. Et en fait, à chaque fois, je suis recalé et j'en venais toujours à me dire, mais c'est parce qu'en fait, je suis pas de Paris. Je suis rural. Ça renvoie une image qui est négative. Et donc, il faut que je la gomme et il faut que je renvoie une image qui est socialement plus acceptable.
Et là, une toute petite parenthèse, il ne s'agit pas de faire de chaque élève rural un futur candidat à une grande école. Elle n'est pas là la problématique des jeunes ruraux. La problématique des jeunes ruraux, c'est pouvoir choisir son avenir, ce qui est tout à fait différent. Si, en tant que jeune rural, moi je veux devenir ébéniste et qu'il y a une formation au lycée professionnel qui est tout près de chez moi, et ben voilà, je deviens ébéniste, mais j'ai le choix. Par contre, si je veux effectivement aller dans une grande ville pour suivre une autre formation, l'essentiel, c'est d'en avoir le choix.
Toi, Lulu, tu vas faire quoi ?
Je vais à Banville.
Et toi ?
C'est soit je vais à IFI03, ce qui est plus probable, ou soit sinon je vais...
JM.
Je sais pas.
Alors toi, t'as décidé, tu vas où ? Parce que t'avais parlé d'aller à Limoise, mais je sais pas si tu
veux y aller. Non, je vais à Ghana ou en bac pro. Mécanique.
Ah d'accord.
Benoît Coquart, sociologue, auteur de Ce qui reste, est entre deux trains le jour où nous nous rencontrons.
Les jeunes ruraux ont tendance à entrer plus souvent dans la vie par des métiers manuels qui s'exercent davantage sur place. Ils font des études supérieures un peu moins longues que les jeunes urbains. C'est-à-dire qu'eux, à niveau scolaire égal, ils vont avoir plutôt envie de faire un BTS plutôt qu'un master, parce que notamment la ville universitaire est loin, mais aussi parce qu'on est plutôt sur des populations chez qui les parents n'ont eux-mêmes pas fait ou peu fait d'études supérieures. Donc tout ça, ça va changer un petit peu leurs aspirations, leur style de vie, que ça soit dans leur rapport en fait à la ville, dans la façon dont ils se projettent dans l'avenir, dans leurs aspirations à devenir propriétaires plus tôt, à avoir des enfants peut-être un peu plus tôt. Tout ça en fait renvoie à le milieu dans lequel ils ont été socialisés et comment ils ont en fait des normes qui sont pas forcément les mêmes que les jeunes des villes. Et après le bac, il y a vraiment une dispersion sociale en fait de ces jeunesses-là qui est très forte. Donc ceux qui restent, c'est ceux qui ont tendance à faire des études plus courtes. Et après, parmi eux, va y avoir là encore différentes situations en fonction de est-ce qu'ils vont rester d'une certaine manière en se sentant contraints de rester. Et d'autres, au contraire, qui restent et qui me disaient Paris, jamais de la vie. Les grandes villes, jamais de la vie. Et ils avaient beau jeu de me le dire, notamment parce qu'en fait, ils m'expliquaient qu'eux avaient réussi à accéder à la propriété, à trouver un travail stable, voire à monter leur entreprise, à devenir auto-entrepreneur, qui a un statut très valorisé à la campagne, à être reconnu pour leur métier, pour leur travail. Moi, quand je travaille, depuis que je suis apprenti, on dit que j'ai de l'or dans les mains. On dit que je suis pas feignant. Pour beaucoup, l'école, c'est la seule salle sociale dans laquelle ils ont été dévalorisés, dans laquelle on leur a dit qu'ils étaient pas doués. Alors même qu'au travail, on leur a toujours dit qu'ils étaient courageux. Et il y a l'équivalent féminin. Je peux vous parler de cas de vendeuse en boulangerie, etc., dont on dit qu'elle a la tchatche, une bonne tête. En fait, il y a des espaces réels de reconnaissance à la campagne pour des jeunes qui, de par leur catégorie sociale, de par ce qu'ils sont, seraient beaucoup plus ignorés et invisibilisés en ville.
Mes parents sont agriculteurs, ils font des vaches et des chèvres, des traites et des fromages. Ce qui me plaît, c'est utiliser les engins agricoles, démonter des moteurs et continuer à être toujours dans le milieu agricole un peu. Voilà.
En fait, ils ont moins accès aux professions qui vont, on va dire, produire une certaine vérité, une certaine image du monde. Qui sont les nôtres, en fait, nos professions, que ça soit des professions médiatiques, de chercheurs, dans les représentations politiques, dans le champ militant, associatif, l'aura dont je vous parlais, la reconnaissance qu'ils peuvent avoir, elle est localisée. C'est pour ça qu'on appelle ça un capital d'autochtonie, c'est-à-dire que pour ceux qui n'ont peu ou pas d'autres formes de capitaux, c'est-à-dire peu de diplômes, moins de capital économique, être reconnu localement, ça devient l'essentiel. C'est-à-dire qu'ils ont fait une nécessité vertu aussi en disant qu'ils aimaient mieux les métiers manuels, les études courtes, puisque de toute façon, les choses n'étaient pas faites pour qu'ils puissent y prétendre et réussir dedans. Tout ça, ça peut être vécu de façon parfois triste ou parfois engendrer des colères, quoi.
Alors j'ai grandi dans une commune qui s'appelle Saint-Clément, qui compte aujourd'hui à peu près 1400 habitants, dans un département rural. Je suis allée au collège dans le chef-lieu de canton qui s'appelle Seillac, qui compte à peu près une centaine de collégiens. Et puis après, je suis allée à Tulle, la ville-préfecture pour faire mon lycée avant, comme de nombreux jeunes de territoires ruraux, de devoir quitter mon département pour poursuivre mes études supérieures.
Pendant des décennies, les jeunes ruraux sont restés dans l'angle mort des politiques publiques, des dispositifs d'égalité des chances, des médias, des associations. Personne ne parlait de cette jeunesse. Personne n'imaginait de solution aux inégalités systémiques qu'elle rencontrait. Et aujourd'hui encore, on peine à déployer les solutions pour que les jeunes ruraux aient les mêmes opportunités académiques, professionnelles et citoyennes que les jeunes urbains.
Alors, j'avais assez peu d'exemples dans mon entourage. Moi, j'ai grandi dans une famille d'agriculteurs, d'ouvriers, de salariés, plutôt dans le parapublic aussi. J'avais assez peu d'exemples de jeunes qui avaient quitté le département. Mais ça a été comme instinctif. J'ai été incitée aussi par le système scolaire à poursuivre des études supérieures. Donc je dois beaucoup ce parcours à des gens finalement qui m'ont fait confiance et qui m'ont incité à oser partir de mon territoire.
Bien sûr, il y a des jeunes ruraux qui parviennent à surmonter les obstacles qui s'imposent à eux. Comme Émilie, Victor, Antoine ou Rose, je suis une de ces belles histoires par lesquelles la méritocratie se rassure en se répétant que quand on veut, on peut. Et non, quand on est un jeune rural, ce n'est pas parce qu'on veut qu'on peut. À catégorie socio-professionnelle équivalente, les jeunes ruraux font en moyenne des études moins longues que les jeunes urbains. Ils passent 2h37 par jour dans les transports, soit 42 minutes de plus chaque jour que les jeunes du même âge en ville. Ils ont accès à moins d'informations, moins de dispositifs, publics comme privés, pour les accompagner dans leur orientation et vers l'emploi. Leur budget transport est en moyenne de 528 euros par mois, soit près de 5 SMIC par an. Quand on souligne ces inégalités systémiques, on se voit souvent rétorquer qu'on peut vivre à la campagne tout en y étant très heureux. Oui, fort heureusement. Mais ça ne veut pas dire que ces inégalités n'existent pas ou qu'on doit accepter qu'elles perdurent.
Les jeunes femmes, elles sont plus souvent amenées à partir de la ruralité. Pourquoi ? Parce qu'elles sont meilleures à l'école. Dans une même famille d'enfants d'ouvriers, par exemple, pour le milieu auquel je m'intéresse, c'est très souvent une sœur, pas souvent l'aînée, mais souvent la cadette, la benjamine, qui va être forte à l'école et qui, du coup, se retrouve un peu prise par le jeu scolaire.
Moi, je ne me suis pas trop posé de questions avant le lycée. Et là, j'ai commencé à fantasmer un petit peu ce que j'écoutais dans les chansons que ma mère écoutait. Il y avait les chansons qu'on entendait sur Nostalgie dans la voiture. Par exemple, Pierre Bachelet, dans sa chanson « J'avais 20 ans », qui parle d'aller s'installer à Paris pour faire mes 68, quasiment, c'est sa chanson. Je parle aussi dans le livre de chansons de Goldman, « On vole le moi ». Il y a tout un imaginaire culturel qui pousse à partir, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. D'ailleurs, je pense que pour se construire, c'est aussi possible de partir. Mais là, il y avait comme aussi ça se mélangeait avec une nécessité absolue parce qu'il n'y avait aucune formation supérieure à Bourges. Alors, je sais que ça a changé maintenant. Mais en tout cas, à mon époque, moi qui étais plutôt dans les filières littéraires, il fallait obligatoirement aller à Tours. Donc, l'idée de partir arrive assez rapidement au lycée, dès qu'on commence à parler de carrière et de futur. Et puis, voilà, c'est porté aussi par cet imaginaire du départ pour la grande ville. Puis on part sans regret, hein, puisque de toute façon, on nous a promis une non-vie sur ces territoires-là. C'est ça que je trouve difficile aussi. En fait, c'est très bien de vouloir se construire et de s'émanciper de sa famille. Je crois que ça fait partie du développement humain. Mais là, pour parler que de mon cas, c'était associé à beaucoup de mépris pour ceux qui restaient. Alors, ceux CE et ceux CEUX qui restaient, voilà, que j'ai pu probablement juger en me disant « Oh là là, ils veulent pas mieux que ça. » Voilà, je trouve que dans la question du territoire, il y a forcément, en tout cas moi c'est mon avis, toujours un peu cette histoire de transcendance culturelle aussi.
Dans les jeunes que moi je peux rencontrer qui vivent dans les espaces ruraux et qui sont issus des classes populaires, on va leur dire « Ah oui, d'accord, mais t'as quand même pas l'expérience de la ville. »
Yaël Anselem-Mingui est sociologue, auteur du livre « Les filles du coin ».
il y a quand même cette question, à mon avis, qui est en lame de fond, de toujours reprocher à la jeunesse de ne pas avoir fait suffisamment l'effort de partir. Et que finalement, on les renvoyait toujours à l'absence d'ambition par une soi-disant immobilité, alors que quand on les écoute dans leur quotidien, c'est des jeunes qui font bouger les lignes en permanence.
L'année prochaine, je vais à Banville, à Moulins. C'est pas du tout ce que je voulais, mais bon.
Je serai interne, donc ça perd beaucoup pour le porte-monnaie de mes parents. Mais bon, voilà, mon papa il m'a toujours dit, si tu veux faire, on y fera. Donc bah, on y fait, quoi.
Quand on est jeune à la campagne, partir peut vouloir dire se faire violence. Rester peut vouloir dire renoncer. Certains vont préférer la violence au renoncement, d'autres l'assignation plutôt que l'arrachement. Quoi qu'il en soit, c'est une question centrale et décisive dans ces territoires, surtout quand on a 15 ans ou 18 ans. Et surtout, quand on est une jeune femme.
Alors, qu'est-ce que c'est de réussir sa vie quand on est une fille du coin, qu'on est issue des classes populaires, qu'on a toujours vécu en milieu rural ? C'est d'abord de rester vivre en milieu rural. Alors, pas forcément là où on a grandi, mais souvent de se rapprocher du bourg un peu actif, dans un bourg où il y a des commerces, où on n'est pas obligé de prendre sa voiture tout le temps, dans un bourg où il reste un peu des services publics. Et puis, surtout, réussir sa vie, c'est pouvoir acheter un chez-soi, se poser, avoir un travail, avoir un couple et éventuellement avoir des enfants. Comme elles disent, moi je veux une petite vie tranquille, là où je suis. Et quand je leur ai demandé, mais ça veut dire quoi avoir mon chez-moi, c'est être propriétaire. Et donc c'est cet enjeu de l'acquisition et de l'accès à la propriété, il fait partie des conditions pour avoir réussi sa vie. Donc voilà. Et donc c'est quelque chose qu'on va voir revenir quand même beaucoup, cette question de l'indépendance économique, de l'entrée dans l'emploi, qui vont être concurrentielles avec les diplômes et la formation diplômante ou trop diplômante par rapport aux emplois disponibles. Ça vaut pas le coup de faire autant d'années si c'est finalement pour te retrouver comme X ou Y à être employé à l'EHPAD typiquement.
Alors la jeunesse, c'est l'âge hein, où on a des déclassements, reclassements permanents, comme disait Bourdieu. Parce qu'on obtient un diplôme, on peut cartonner à l'école et tout de suite être très valorisé. Mais au final, on va se retrouver stagiaire sur un marché du travail précarisé, alors même qu'on a beaucoup de diplômes. Ce qui est d'autant plus dur à vivre pour celles qui partent, quand votre maman ou vos parents vous disent « T'as vu la fille machin qui est rentrée à la boulangerie elle a déjà une maison, et puis ils sont déjà mariés, et puis toi, qu'est-ce que tu fais donc ?» Parce que les parents comprennent pas forcément en fait ces trajectoires vers l'urbain. Et c'est là où je pense qu'il faut avoir un peu aussi de compréhension de la condition compliquée en fait de ces jeunes qui sont partis, mais qui concrétisent pas forcément une ascension sociale. Alors ça peut les amener à vouloir revenir, mais elles peuvent simplement vouloir revenir parce qu'elles se sentent appartenir à cet espace-là. Et quand elle revenait, la jeune femme diplômée, elle avait aussi quelque chose qui était difficile, c'était de se réajuster finalement à une conjugalité populaire, alors qu'elle avait quand même un peu pris des normes et des valeurs au milieu estudiantin. Donc en gros, elles n'avaient pas envie de s'occuper d'une maison, entretenir un espace domestique, et puis sacrifier en fait à leur carrière, à leur vue professionnelle. Mais encore une fois, quand elles reviennent, elles ressentent quand même un décalage. Moi, elle me disait rapidement, le problème c'est qu'on te zappe. Pourquoi ? Parce que ceux qui restent, ils sont pas là en train de s'ennuyer à regarder ceux qui partent. Oh là là, si seulement on pouvait aller en ville. Non, en fait, ils ont une vie très intense. Comme je vous disais, ils rentrent très tôt dans la vie d'adulte. Il se passe des choses pour eux. Et donc, ce qu'elles font, notamment en ville, parce que c'est pas anodin au fait que ça soit des femmes, le fait qu'on les oublie. Hein. Quand c'est des jeunes qui vont devenir pompiers de Paris, par exemple, là, on regarde leur sauvetage, leurs exploits sur Facebook. Quand ils reviennent le week-end, ils sont très bien accueillis. Les modèles masculins s'imposent mieux que les modèles féminins dans les sociétés rurales, c'est assez clair. Et donc on les zappe, et après pour elles forcément c'est difficile d'être vues comme celles des week-ends, alors qu'elles se sont toujours senties comme du coin. Elles s'étaient projetées dans le fait de revenir. Voilà, j'étais un peu long là-dessus, mais c'est parce qu'en fait c'est vraiment pour elles, ça prend 10 ans. C'est-à-dire qu'il faut les suivre sur le temps long pour voir tous les moments où on va avoir des moments de rejet, ou de dire, bon après tout là-bas ils avancent pas, et puis si c'est pour être toujours avec les mêmes, et puis j'ai pas fait tout ça pour rien, donc en gros j'y vais à fond, carrière, à la ville, et puis on verra bien. Et puis des moments où on se dit, les parents vieillissent, moi aussi j'ai envie d'avoir des enfants, enfin toutes ces aspirations-là, et j'ai pas d'argent, parce qu'elles n'ont pas hérité, elles viennent pas de milieux riches. Donc vivre la ville sans héritage et sans privilège économique, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas que l'insertion sur le marché du travail qui compte, c'est le fait qu'on se voit locataire à vie, toutes ces choses-là très concrètes, quoi.
Depuis que Steph était rentrée, sa mère avait voulu l'emmener partout, la montrer. Les gens disaient « la Parisienne ». C'était à la fois flatteur et chiant. Avec sa mère, elles prirent donc la Golf pour aller en ville. Steph retrouvait Ayange avec un sentiment mitigé. Malgré elle, elle éprouvait du plaisir à revoir ces lieux, les vieilles boutiques qui finiraient avec leurs propriétaires, mercerie, primeur minuscule, et puis la poste et son mobilier des années 70, son bahut, enfin. Dans ce paysage réduit et permanent, elle se sentait fière. Elle aurait d'ailleurs voulu qu'on sache qu'une marque la distingue, elle qui appartenait désormais à d'autres lieux. Tout dans son attitude disait « Je ne fais que passer ». Leurs enfants après eux, Nicolas Mathieu.
Je suis Daphné Simène, je suis employée dans une association sans but lucratif qui s'appelle le CNAS et j'habite à Griesheim-Prémolsheim. C'est une petite commune d'un peu plus de 1000 habitants. L'activité économique principale est située bien sûr à Strasbourg, qui est une eurométropole. Et on est à un peu plus d'une demi-heure de Strasbourg en temps normal. Et bon, en heure de pointe, ça monte plus. J'ai rencontré en fait mon mari actuel lors de mes études en faculté de droit. Donc nous avons décidé de s'installer ensemble et on n'avait pas les moyens d'acheter un terrain et notre projet c'était de construire notre maison. Donc on a décidé de quitter la ville et d'acheter un terrain donc à Griesheim-Prémolsheim et c'est donc en 2022 que nous avons acheté notre terrain et construit notre maison à Griesheim. On était tout à fait conscients des limites que posait le fait d'habiter dans une petite commune et vraiment loin d'une grande ville. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas de transport en commun dans notre village, aucun. On savait qu'on devait investir dans une deuxième voiture, on savait qu'on allait avoir moins de temps que les autres collègues dans notre vie personnelle, puisqu'il fallait prendre en compte les temps de trajet, etc. Donc on était vraiment tout à fait conscients de toutes les problématiques. Mais moins de la partie liée vraiment à l'enfance, puisqu'on n'avait pas à ce moment-là, au moment où on a acheté le terrain, de projet de devenir parent. Et de voir notre maison prendre forme comme on le voulait et dans notre budget, ben forcément on était super contents. Et c'est à ce moment-là qu'on a appris ma grossesse.
Vous aviez quel âge à ce moment-là ?
J'avais 26 ans.
L'entrée plus précoce, on va dire, dans la carrière maternelle, dans le fait d'avoir des enfants, va être aussi liée au fait qu'il y ait moins de perspectives d'emploi, aussi liée au fait qu'en milieu populaire, c'est quand même valorisé, avoir des enfants, c'est un statut social. C'est aussi des jeunes femmes pour qui avoir des enfants, ça va leur permettre de s'engager dans les parents d'élèves, voire même d'être sur des listes municipales à la fin. Moi, j'ai écrit un chapitre là-dessus sur une mère au foyer qui se présente au municipal, justement après avoir eu un enfant, et c'est ça qui l'a fait rentrer, en fait, dans la vie associative, qui lui fait proposer des mesures toutes bêtes, mais il n'y avait pas de garderie dans le village. Ben voilà, en fait, elle propose des mesures plutôt sociales, finalement, pour les jeunes femmes, alors même qu'elle se définit comme 100% Le Pen, comme elle me dit très souvent. Mais en tout cas, spontanément, toutes les mesures qui vont dans son sens, c'est de faire, vu qu'il n'y aura pas d'argent, dit la mairie, pour une crèche dans le village, de tourner entre mamans pour avoir une salle mise à disposition pour garder les enfants. Voilà, toutes ces choses, en fait, qui relèvent de la solidarité pratique, mais là, proposées politiquement.
Le problème auquel on se confronte aujourd'hui, c'est pour la maternelle. L'école de rattachement, ça sera l'école maternelle de Griesheim. Sauf que la périscolaire ferme à 18h30. Et ben, j'ai pas de possibilité, pour la plupart du temps, de la récupérer à temps. Deuxième problème, il n'y a pas assez d'assistantes maternelles dans les petites communes. Et le peu de place qu'elles ont, elles les réservent à des enfants qu'elles vont garder à temps plein. Moi, je suis cadre, mon mari est agent de maîtrise, j'effectue énormément de découchés pour mon travail. Et donc, on se retrouve un peu bloqué. On a voulu se renseigner pour pouvoir l'inscrire dans une école maternelle à Strasbourg. Et on a vraiment été... choquée, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais pas loin. La personne que j'ai eue en ligne et qui assiste aux commissions de dérogation... m'a affirmé que j'avais quasiment pas de chance que notre dossier serait accepté, puisque je n'habite pas dans la communauté urbaine de Strasbourg.
Alors, Ce qu'on a montré dans une étude en 2023 avec notre think tank qui portait sur les services publics en milieu rural, c'est que les femmes sont majoritairement en charge de la relation de services publics et des démarches administratives. Dans notre étude, c'est à peu près 9 femmes sur 10 qui nous ont dit qu'elles étaient majoritairement en charge de ces tâches-là. Et donc forcément, quand il y a éloignement des services publics, dégradation de la qualité de la prise en charge, eh bien ça repose d'abord et avant tout sur les femmes. Quand on prend des décisions en matière d'action publique, il faut qu'on ait conscience de ce biais de genre, de ces préjugés, de ces impensés, qui font que finalement ça va d'abord avoir des conséquences sur les femmes avec des transferts de charges, c'est-à-dire des coûts économiques, par exemple quand il faut parcourir des distances plus longues, pour pouvoir amener les enfants à l'hôpital ou à l'école, des opportunités de carrière en moins, des reconversions. C'est aussi du temps de sommeil en moins, du temps pour soi en moins.
La seule option qui s'offre à moi aujourd'hui, c'est soit que ma demande de dérogation soit acceptée et qu'elle puisse être replacée à Strasbourg, ou soit je vais devoir arrêter mon activité professionnelle.
Ça, je l'ai entendu tellement de fois. Dans la bouche de voisines de mes parents, dans celle de mes amis d'enfance, lors d'interviews menées dans des hameaux du Nord, des petites communes de l'Est ou des campagnes de l'Ouest. Partout où les femmes sont loin, elles doivent s'adapter, composer, renoncer. Parce que les services publics et les systèmes de garde sont éloignés, trop coûteux. Parce que les employeurs ne s'adaptent pas à ces contraintes. Parce que, de fait, ce sont elles qui assurent la logistique familiale. Pour une histoire de kilomètres, ces femmes doivent même, dans certains cas, renoncer à avoir à la fois un travail et des enfants.
Cette question des distances à parcourir, elle est particulièrement marquée dans les propos des jeunes femmes que j'ai pu rencontrer dans l'enquête sur les filles du coin et dans l'enquête que je mène actuellement aussi. Et en fait, tout ça, ça va induire une certaine fatigue des jeunes femmes qui vivent dans les espaces ruraux et des formes d'épuisement qu'on peut rencontrer assez jeunes. La dernière fois, je faisais un entretien avec une jeune femme de 22 ans qui est animatrice et qui a été beaucoup animatrice en petite enfance. Et elle travaillait à un peu plus de 35 minutes de chez elle. Elle embauchait à 7h du matin, elle débauchait à 9h, elle réembauchait à 11h, elle débauchait à 13h30, elle réembauchait à 16h pour finir à 19h. Et elle disait, en fait, je ne peux pas couvrir les frais kilométriques, les frais de l'essence à chaque fois pour revenir. Et en même temps, je n'ai pas le temps de faire autre chose. Donc je peux pas rester dans ma voiture. Quand c'est l'été, ça va, je peux aller me poser avec, enfin voilà, et regarder des vidéos sur YouTube ou prendre un livre. Mais quand c'est l'hiver, on se retrouve à quatre dans une voiture, on rigole, on n'a pas forcément les moyens d'aller acheter quelque chose ou d'être légitime à rentrer dans un café ou dans le café du coin qu'on n'aime pas, où il n'y a plus de café éventuellement selon les endroits où elle travaille. Et donc il y a cette question-là qui va participer très fortement à l'épuisement. Elle voyait plus ses potes, elle sortait plus, elle avait la flemme le soir de tout faire et elle s'endormait dès qu'il commençait à regarder un film ou une série avec son compagnon. Avec des reproches de son compagnon de plus avoir une vie de couple mais de plus avoir une vie sociale non plus. Et donc on va voir comme ça comment cet épuisement, il arrive dès la vingtaine en fait parce qu'elle elle a 20 ans.
Et puis, bien évidemment, c'est la question des déserts médicaux et on concentre beaucoup la question sur les médecins généralistes. Les femmes ont tendance à moins s'occuper d'elles, de leur santé, à être moins bien informées pour leur propre santé que pour la santé de leurs proches. Et donc, il est important de pouvoir conscientiser ces problématiques pour y apporter des réponses.
Sur les enjeux autour, typiquement, de l'accès aux soins, c'est quelque chose qui revient, on va dire, très très tôt dans les propos des jeunes femmes, notamment parce que, qu'on soit en milieu rural ou en milieu urbain, on grandit quand on est une femme avec l'arrivée des menstruations. Et donc, il y a cette question d'accès à la contraception, on va dire, quotidienne d'un côté, et puis d'accès à la contraception d'urgence de l'autre. Alors aujourd'hui, la contraception d'urgence, elle est gratuite, certes, gratuite en pharmacie, gratuite dans les associations, mais en fait, elle est gratuite dans des espaces où l'interconnaissance est très forte en milieu rural. Contrairement au milieu urbain, on va dire, où finalement on peut changer de quartier, en milieu rural, le fait d'aller chercher la contraception d'urgence et de devoir répondre à des questions souvent des pharmaciennes et des pharmaciens Ah ben j'ai vu ta fille, elle avait l'air d'aller bien aujourd'hui, tu lui repasseras le bonjour. Ou au contraire, ah ben tu passeras le bonjour à ta mère ce soir. C'est des remarques qui font que bah derrière, ah bon, t'as été à la pharmacie, t'as été chercher quoi? Donc voilà, et donc c'est tout plein de moments qui vont participer à des formes de contrôle et de contrôle de la sexualité des jeunes femmes en particulier, qui n'ont pas d'équivalent pour les jeunes hommes.
Quand on parle d'égalité femmes-hommes, c'est impossible de ne pas aborder la question des violences faites aux femmes. Des chiffres récents ont montré que près d'un féminicide sur deux a lieu à la campagne. Pourquoi et qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous ?
Il est vrai qu'il y a une particularité visiblement de la question des violences sexistes et sexuelles à la campagne parce qu'il y a des conditions d'existence particulières qui reposent bien évidemment sur des sociabilités locales qui parfois empêchent de parler parce que les gens se connaissent parfois plus facilement. Mais aussi, il y a moins de structures institutionnelles en relais pour les femmes, y compris des associations qui sont moins présentes à la campagne. Et il est important justement que les acteurs institutionnels puissent les soutenir parce qu'elles peuvent être des relais de confiance. Il y a aussi cette dimension bien évidemment des déplacements. Quand parfois il n'y a qu'une voiture dans un domicile et que c'est la voiture de monsieur et qu'il exerce ce qu'on appelle aujourd'hui le contrôle coercitif, c'est-à-dire qu'il contrôle toutes les allées et venues de sa compagne, bien évidemment ça rend plus compliqué d'aller se mettre à l'abri, d'aller demander de l'aide, de se rendre au commissariat. Mais alors qu'on critique beaucoup les services publics, je trouve que sur ces questions-là, il y a eu des progrès indéniables ces dernières années de l'ensemble des acteurs dans une approche partenariale. Les élus locaux aussi s'impliquent beaucoup, et notamment l'Association des maires ruraux de France a créé les relais de l'égalité pour être aussi des interlocuteurs de premier niveau. Les mairies proposent des solutions d'hébergement, d'accompagnement, de mise à l'abri. Donc je trouve qu'il faut aussi pouvoir valoriser tout ce qu'il y a de positif, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire en la matière.
Oui, les choses bougent. Un peu. Doucement. On n'est plus, c'est vrai, à cette période pré-gilets jaunes, où je faisais le tour des entreprises et des ministères pour parler de la jeunesse rurale, et où on me riait au nez en me répondant que ce n'était pas un sujet. Que les jeunes ruraux avaient surtout de la chance de grandir au grand air, et que, de toute façon, ils n'étaient qu'une poignée. Au ministère de l'Éducation nationale, on me renvoyait au ministère de l'Agriculture, parce que les ruraux, c'était forcément des agriculteurs. À l'agriculture, on me renvoyait au ministère de la Cohésion des territoires, parce que c'était avant tout l'affaire des territoires, pas de ceux qui y vivaient. Les avancées récentes n'ont pas été une progression naturelle. Elles ont été provoquées, arrachées même, par des mouvements sociaux, des élus locaux, des artistes, des chercheurs, des associations de terrain et de plaidoyer qui portent la cause des ruraux, partout où il faut les défendre.
Je détermine la date d'un changement assez profond, c'est avec l'expérimentation dite des territoires éducatifs ruraux. Territoires éducatifs ruraux qui ont été mis en place en 2021, qui a été majeur pour vraiment déclencher la réflexion de l'éducation nationale. Alors, quelque part, ce rapport a montré qu'il y avait des caractéristiques aux jeunes ruraux. S'il y a des caractéristiques aux jeunes ruraux, il faut faire comme pour les jeunes en éducation prioritaire, c'est-à-dire avoir des réponses adaptées à leurs problématiques. Et là, le ministre de l'Éducation nationale d'alors a même créé un secrétariat d'État qui s'occupait donc et de l'éducation prioritaire, puis quelque part de son pendant, l'éducation rurale, et qui a donc créé les territoires éducatifs ruraux. Alors, en fait, la problématique, c'est se dire, voilà, on connaît bien nos jeunes ruraux, on les a identifiés, si j'ose dire, comment va-t-on apporter des réponses donc à ces jeunes, sachant, et là je pense que c'est quelque chose de très très important, cette réponse, elle n'est pas simplement du fait de l'éducation nationale, elle doit être construite avec tous les acteurs locaux. Et on va créer quelque part de l'intelligence collective, hein. Voilà. Les deux objectifs principaux qu'on va développer, c'est développer l'ambition scolaire. Je me demande si je ne vais pas faire changer, si on ne va pas développer l'audace scolaire et la mobilité des jeunes des zones rurales et éloignées. Par contre, si on veut que les choses bougent, il faut que cette expérimentation dure dans le temps et qu'elle ne soit pas simplement, comme parfois, hein, un gadget, entre guillemets, hein, alors que en quelques années, là, moi, je vois un frémissement.
Un frémissement. C'est assez juste. Le risque serait de considérer que, parce que ça frémit, c'est suffisant. Le travail est fait. Alors que ce travail doit surtout s'inscrire dans la durée. Les TER, ces territoires éducatifs ruraux dont vient de parler Annette, c'est justement un très bon exemple. C'était une des recommandations d'un rapport de mission que j'ai remis au ministre de l'Éducation nationale en 2021. Avec Rura, cette mission, je l'ai proposée et reproposée. Le rapport contenait 25 recommandations, 3 ont été conservées, dont les TER. Ça frémit, donc, mais pas assez fort, pas assez vite, pas à la hauteur des décennies de retard accumulés. Dans une étude de juin 2025, 8 ruraux sur 10 déclarent que les partis politiques accordent trop d'importance aux préoccupations des urbains et pas assez aux leurs. La même proportion, 8 sur 10, disent que les urbains ne comprennent pas ou ne respectent pas leur culture ou leur mode de vie. À ceux qui, face à ces chiffres, rétorqueraient qu'ils sont de l'ordre du ressenti, rappelons qu'un ressenti, tout comme un vote, n'est jamais neutre.
Tu oublieras. Je parle d'une chanson « Tu m'oublieras » de La Rousseau, qui est dans mon top quotidien de musique. Et puis là, on est en 2024 et c'est Juliette Armanet qui la reprend sur France Inter. Et le côté dance, un peu disco de la chanson de La Rousseau est complètement gommé. On la reprend avec des accords très graves, avec une interprétation sérieuse, un piano-voix très sobre. Mais ce qui me dérange assez vite, c'est les commentaires autour qui consistent à dire « elle est belle cette chanson en fait ». Ce « en fait » veut dire qu'elle n'était pas belle avant ou qu'on n'avait pas su voir qu'elle était belle avant et qu'il a fallu un travail de transformation pour la rendre belle. Ça, je trouve que c'est une forme de violence qu'on pourrait considérer complètement anecdotique mais qui, dans le fond, ne l'est pas vraiment.
Merci à Rose Lamy, Victor Delage, Annette Gien, Guylain Gilliot, Antoine Chevrolier, Benoît Coquart, Émilie Agnew, Yaël Anselem Mingui, Daphné Simen. Prise de son, Nicolas Mathias, Hélène Langlois, Mathieu Leroy, Manuel Couturier. Mixage, Antoine Viossa. Documentation, Anne-Lise Signoret. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. C'était Entendre la France rurale, épisode 3, La ruralité, exhausteur d'inégalités. Un documentaire de Salomé Berlioux, réalisé par Véronique Samouilov. N'a pas